du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Moissac. 93.3.
Soyez les bienvenus, il est tout juste 12h sur les pendules de Radio Présence, Présence Midi en direct. Bonjour à vous Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Très heureux de vous retrouver sous la chaleur avec cette émission qui est en direct.
En direct, évidemment. Aujourd'hui, figurez-vous que je vais vous parler de sport. Vous savez que je suis une très grande sportive,
oui,
Gilles.
Exactement.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un sport que 12 millions de spectateurs suivent sur les bords des routes tous les étés, au mois de juillet. C'est le Tour de France qui traverse en cette année 2026 25 diocèses. Nous allons en parler dans quelques instants.
Exactement, on parlera de l'Église de France qui se mobilise donc à l'occasion du passage du Tour de France dans les diocèses. Dans cette émission également, nous irons dans le Gers. Mercredi 27 mai a eu lieu au Musée de la Résistance à Auch l'inauguration d'une plaque en hommage au juste gersois. On écoutera tout à l'heure le reportage de Pauline Cazier qui s'est rendue sur place. Et puis dans cette émission, nous parlerons de l'habitat. Autrefois, en 1887, on a demandé aux instituteurs dans les villages des Hautes-Pyrénées de recueillir des témoignages. 4000 pages de documentation sont aux archives des Hautes-Pyrénées et Jean-Pierre Bouvet a publié un livre qui s'intitule Hautes-Pyrénées, paru aux éditions Bonneton en 1998. On en parlera avec Anne Lasserre et Philippe Subercaz. Voilà pour les grandes lignes de cette émission. Et dans un instant, nous partons à Bayonne.
Ah, Bayonne, bien sûr, évidemment. J'étais dans mon Tour de France, moi.
Voilà, Bayonne, qui est en France aussi.
Hein. Oui, voilà. Bien sûr, mais j'étais déjà en malade en vélo.
Exact. On retrouvera évidemment la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne, Lescaréo Laurent. Mais pour le moment, place à l'actualité régionale avec les titres qui seront développés dans le journal de 12h30 avec Sacha Boudet-Bouplier.
Une première médicale franco-suisse impliquant le CHU de Toulouse. 8 patients ont participé à un quadruplé inédit de dons croisés de reins avec donneurs vivants. La 75 sera en travaux pendant 15 jours entre Sévérac d'Aveyron et Campagnac avec des perturbations de circulation à prévoir. Plus de 6000 passages enregistrés en un mois sur la voie verte récemment rénovée entre Saint-Giron et Saint-Lizier en Ariège. Preuve du succès des mobilités douces dans la région. À Saint-Gaudens, l'hôpital tente de séduire de futurs médecins en accueillant 18 internes pour promouvoir le territoire et ses infrastructures médicales. Une église vandalisée dans le Lot-et-Garonne suscite émotion et incompréhension dans tout un village après les dégradations constatées le lundi de Pentecôte. Et puis enfin, pour finir, le château de Fort de Lourdes proposera une journée gratuite d'animation et d'ateliers à l'occasion des rendez-vous au jardin.
Merci Sacha Boudet-Bouplier, voilà, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On le retrouvera tout à l'heure à 12h30 pour développer ses titres dans le journal régional. Dans un instant, l'agenda du diocèse de Bayonne, Lescaréo Laurent. Pour cela, eh bien, on va téléphoner à Nathalie Chambon, qui est la responsable de la communication pour ce diocèse. On la retrouve juste après la voix de Florent Pagny.
Paradiso degli dèi, immaginarti io potrei, come colomba bianca tu
ti amo. Sei sortilegio, sei magia, la mia più dolce melodia, e che ti adoro, bimba mia, non è strano. Troppo lungo questo tempo, così forte il sentimento, quando sei lontana mi tormento io. Le canzoni degli dèi, così dipingerti vorrei, come regina sei per me delicata, e la passione che ho per te, quando ti guardo penso che la mia bambina resti tu, la mia fata.
Sur le plateau du Larzac, 106.5.
Et c'est sous la chaleur que j'accueille avec plaisir Nathalie Chambon. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour Gilles.
Avec vous, on ne va pas parler météo, mais agenda. L'agenda du diocèse de Bayonne, Lescaret, Oloron, puisque vous êtes la responsable de la communication pour ce diocèse et on se retrouve chaque semaine pour débuter direction Morlas, à quelques kilomètres de Pau, avec cette lecture priante de l'évangile selon saint Matthieu.
Oui, ce soir donc c'est la dernière réunion de cette lecture priante, pardon, de cette lectio divina de l'évangile de saint Matthieu. C'est donc à la maison paroissiale de Morlas. C'est à 18h, de 18h à 20h. Et encore une fois, je le redis, hein, même si vous n'êtes pas venu aux lectures précédentes, vous êtes évidemment les bienvenus et peut-être que ça vous donnera le goût pour l'année prochaine de vous inscrire et de faire le cycle complet.
On poursuit avec les propositions de foi et culture, c'est dans le cadre du cycle 2025-2026. Par notre corps, ressentir la continuité du vivant, c'est la proposition du 29 mai.
Oui, tout à fait. On se retrouve donc ce vendredi 29 mai à Pau, à la salle paroissiale de l'église Saint-Paul, de 20h à 22h. C'est la conférence qui était initialement prévue en avril, qui donc est reportée ce vendredi 29 mai. C'est Geneviève Ponton, psychomotricienne, qui nous enseignera donc sur ce thème, par notre corps, ressentir la continuité du vivant.
De la musique maintenant dans cet agenda avec ce concert de Missa Tango. Deux dates sont prévues dans le diocèse.
Oui, le 29 mai tout d'abord, donc c'est à Navarinx, où ce collectif Core Alliance, qui est fondé par un Navarrais, interprétera donc l'œuvre du compositeur argentin Missa Tango. C'est une mise en musique de la messe. C'est vraiment un très très beau moment. On le retrouvera également, si vous ne pouvez pas venir à Navarinx, on le retrouvera à Pau, ce concert, dimanche 31 mai, à l'église Saint-Vincent de Paul, à 16h30, là, pour ce concert.
Voilà, un beau concert en perspective, puisqu'il regroupe trois chorales, hein, ce sont 70 choristes, je crois, qui seront là, 70 choristes amateurs des Pyrénées-Atlantiques. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Une chorale qui est à Tardets, une autre à Oloron-Sainte-Marie et la troisième à Pau. J'ai oublié de dire que pour les moins de 12 ans, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, il fait frais dans nos églises. Venir profiter d'un peu de fraîcheur et également pour élever nos âmes, emmener les enfants. Sinon, c'est 18 euros pour les adultes.
On poursuit avec la pastorale familiale du diocèse et la communauté de l'Emmanuel qui nous invite à des veillées pour la vie.
Oui, donc toujours cette importance de prier pour la vie à venir et la vie de manière générale. La prochaine veillée a donc lieu ce vendredi 29 mai à Notre-Dame du Bout du Pont à Pau. C'est de 20h30 à 22h, un temps de louange, d'adoration, de bénédiction des familles.
On poursuit avec encore de la fraîcheur, vous le disiez, en allant pourquoi pas au cinéma et en allant voir le film d'animation David qui est proposé donc dans la vallée d'Ossau à La Rance.
Oui, au cinéma Louis Jouvet, c'est ce samedi 30 mai à 17h. Donc, film d'animation, pardon, autour de la personne de David, pour découvrir ou redécouvrir son histoire et bien sûr pour que les enfants puissent le découvrir également.
Voilà, samedi 30 mai 17h donc à La Rance. On termine cet agenda avec la conférence de Vincent Joseph Soulier, c'est proposé par les associations familiales catholiques à Pau.
Oui, tout à fait. Ce thème, la force cachée de nos fragilités. Donc, c'est un Vincent Joseph Soulier qui est thérapeute. Et cette conférence aura lieu donc à la Maison diocésaine Saint-François-Xavier à 20h30 le jeudi 4 juin. C'est une entrée libre, mais il est conseillé de réserver toutes les informations sur le site internet du diocèse.
Voilà pour une partie de l'agenda, vous l'avez dit, ces informations et plus largement l'agenda du diocèse, on le retrouve sur diocèse64.org. Un grand merci Nathalie Chambon, je rappelle que vous êtes la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. On vous souhaite une excellente fin de semaine du côté de Bayonne et à la semaine prochaine. Merci Nathalie.
Merci beaucoup Gilles, bonne fin de semaine à vous aussi, au revoir.
Présence à Bagnères-de-Luchon 94 FM.
Et la suite de cette émission, dans un instant, on va parler du Tour de France avec vous, Anne-Rose.
Le Tour de France qui rassemble chaque année 12 millions de spectateurs sur les bords des routes. Nous en parlons dans quelques minutes.
On a tous des choses que l'on n'a pas, une famille, des amis, des habits ou un appart. On fait tout ce qu'on peut, tout ce qu'on doit, mais parfois c'est la vie qui nous prive de voir. Bien sûr qu'on est chacun avec sa chance, mais certains trouveront la chance en chemin. C'est sous la pluie qu'on apprend mieux à danser, on va plus haut quand on revient de loin. Ce qu'on vit, ce qu'on veut, ce qu'on voit, c'est la même chose je crois. Ce qu'on fuit, ce qu'on dit, nos combats, on est les mêmes, je crois. Hey, viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. Pas besoin d'aller vite, le bonheur on l'évite alors qu'il était là. Viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. Sur notre épaule, quand le bonheur nous frôle, c'est bien qu'il était là. On voudrait tous ce qu'on n'a pas, cheveux longs, une maison ou une belle brune à son bras. Celui qui a tout peut toujours plus oublier d'être heureux, c'est jouer à la roulette russe. Bien sûr qu'on perd un peu notre innocence, quand le destin nous frappe sans prévenir. Il suffirait de ça, mais de patience, pour voir enfin les beaux jours revenir. Quelquefois, quand on n'a plus de voix, peut-être temps de s'écouter. C'est alors que l'amour fait sa loi, qu'on trouve quelqu'un pour être à nos côtés. Hey, viens on aime qui on est, viens on aime ce qu'on a. Pas besoin d'aller vite, le bonheur on l'évite alors qu'il était là. Viens on aime qui on est, ce qu'on a. La main sur notre épaule, quand le bonheur nous frôle, c'est bien qu'il était là. Viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. Pas besoin d'aller vite, le bonheur on l'évite alors qu'il était là. Viens, on aime qui on est. Viens, on aime ce qu'on a. La main sur notre épaule, quand le bonheur nous frôle, c'est bien qu'il était là.
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Du 4 au 26 juillet prochain, c'est le Tour de France. L'Église de France se mobilise à l'occasion du passage du Tour de France dans les diocèses, Anne-Rose Jankovic.
Oui, le Tour de France qui est un événement planétaire qui rassemble 12 millions de spectateurs sur les bords de route du Tour chaque année. En 2025, 40,2 millions de Français ont regardé sur un écran le Tour de France. C'est le troisième événement sportif planétaire. Le Tour de France, il séduit aussi parce que il a une dimension populaire. C'est un événement gratuit. Et puis, vous savez, chaque année, il y a un public itinérant. Il faut savoir que 60% du public reste en moyenne 5 heures au bord de la route à attendre les coureurs et à regarder la caravane passer. Donc, c'est vraiment un événement à la fois sportif, mais j'allais dire presque citoyen. En tous les cas, il rassemble très largement. Et pour 2026, 25 diocèses seront traversés par le Tour de France, l'occasion pour la Conférence évêque de France d'inviter les chrétiens à se mobiliser.
Alors, quel est l'objectif de l'Église de France? Pourquoi les catholiques sont-ils invités à prendre part à cet événement?
Le sport peut être un instrument de rencontre, de formation, de mission et de sanctification. C'est pas moi qui l'invente, c'est le pape François qui avait dit ça en 2018. Et en effet, l'Église de France, fort de cette conviction, invite les chrétiens à se mobiliser à l'occasion de ce Tour de France et à bâtir des équipes localement, un petit peu partout où passe le Tour, pour mener à bien différentes missions. Alors, il y a des missions très, très, très diverses. Ça peut être organiser une balade à vélo, être animateur de jeux sur le bord des routes pendant les étapes, distribuer de l'eau, mettre en place une buvette, proposer un petit point histoire et patrimoine, organiser des conférences, organiser aussi un temps de prière dans les églises. Enfin, beaucoup de missions à la carte sont proposées ou en tous les cas encouragées par l'Église de France, avec vraiment trois incontournables que l'Église de France nous invite à vivre dans tous les diocèses traversés par le Tour. D'abord, faire sonner les cloches dans tous les villages où le Tour passera, ouvrir les portes des églises et puis distribuer de l'eau aux spectateurs. Il faut savoir, avoir en tête en tous les cas que le Tour de France, ce sont des coureurs, 184 coureurs, 23 équipes, une caravane, la fameuse caravane qui jette des petits morceaux de saucisson, mais surtout une caravane qui mobilise 5000 personnes, les spectateurs, les téléspectateurs, et puis aussi des cyclistes amateurs. Ils sont nombreux, 16 000 participants de l'étape du Tour, qui sont des cyclistes amateurs.
Alors, la Conférence des évêques de France nous propose donc quatre catégories de projets à mettre en place dans les diocèses traversés par le Tour de France. Premier projet, des projets spirituels.
Oui, des projets spirituels avec, par exemple, la bénédiction des vélos, des habitants des villages qui sont traversés par le Tour, chanter, faire des chants de louanges sur le parvis des églises, proposer la rédaction d'intentions de prière à déposer dans l'église de votre village, avec, pourquoi pas, des bougies à déposer au pied d'une statue de la Vierge Marie, proposer une messe ou une veillée de prière pour prier pour les coureurs, informer, enfin profiter que le tour passe dans votre village pour informer sur les messes, les temps de prière, les bénédictions, les visites, les processions ou d'autres événements qui sont organisés dans votre paroisse. Vous pouvez pour cela utiliser par exemple l'application Messe Info pour communiquer plus facilement et plus largement, et puis bénir les coureurs au passage des églises. L'objectif pour la conférence évêque de France, eh bien, c'est d'avoir 5 messes recensées par étape sur le parcours. Voilà pour ces projets spirituels.
Deuxième projet, projet de solidarité.
Les projets de solidarité, alors là, c'est différentes propositions qui sont suggérées. D'abord, amener des personnes en fragilité qui sont peut-être en EHPAD, qui sont en situation de handicap, qui n'ont pas les moyens de venir, les emmener sur les bords du Tour pour qu'elles puissent participer à cette fête qui est tout à fait populaire. Proposer une animation qui mette en avant la joie et la solidarité. Et puis pourquoi pas proposer une activité à but caritatif à l'occasion du Tour de France chez vous. L'objectif, là encore, à chaque fois il y a un objectif très précis. L'objectif pour ces projets de solidarité, eh bien, c'est d'avoir 500 personnes âgées ou en situation de handicap qui sont accompagnées sur les bords des routes pour pouvoir vivre ce Tour de France.
Troisième projet, projet missionnaire.
Voilà, les projets missionnaires. Alors là, ça mobilise des équipes localement. Il s'agit par exemple de faire sonner les cloches de votre église, 3 minutes lors du passage du coureur dans votre commune, ouvrir en grand les portes des églises à proximité du tour, proposer de l'eau aux spectateurs sur le parvis de l'église ou bien dans un espace, terrasse qui sera plus ouvert à la discussion sur les bords des routes où attendent les spectateurs. Pourquoi pas animer un virage? Alors il faut d'abord identifier un lieu, par exemple un lieu où il y a une montjoie, un calvaire, et puis eh bien là, faire une animation comme on sait bien faire dans l'église. Voilà, l'objectif pour ces projets missionnaires, c'est de faire sonner les cloches dans 1000 communes où le Tour de France passera.
Autre projet, là, un projet éducatif.
Voilà, c'est le quatrième pan de projet, les projets éducatifs et ou culturels. Alors là, il s'agit, alors on reste toujours en lien avec le patrimoine religieux, puisqu'il s'agit de, par exemple, proposer une visite des églises, organiser, là c'est plus sportif, une balade à vélo la veille, par exemple, à l'échelle de la paroisse, ou pourquoi pas du diocèse. En tous les cas, voilà, c'est très varié, mais l'objectif, eh bien, c'est de profiter du Tour de France pour promouvoir aussi notre patrimoine religieux et organiser des missions autour de ce patrimoine.
Alors, on va donner un exemple. Exemple dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes.
Alors, dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, eh bien, il y aura 2 jours d'étapes. La 5e étape et la 6e étape qui auront lieu mercredi 8 juillet et jeudi 9 juillet. Le mercredi 8 juillet, l'étape, elle ira de Lannemezan à Pau. Donc, elle commence dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes et puis elle termine dans le diocèse de Bayonne. Alors, eh bien, voilà, différents villages sont traversés, vous l'imaginez. Puis le lendemain, eh bien, jeudi 9 juillet, l'étape ira de Pau à Gavarnie-Gèdre. Gavarnie-Gèdre sera la fin de l'étape. Voilà, donc Gavarnie-Gèdre, évidemment, dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Donc là, ça mobilise déjà beaucoup d'équipes localement qui sont en lien avec les communes, avec les organisateurs du Tour de France. Eh bien, pourquoi pas les chrétiens? Voilà, donc les chrétiens du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, comme les chrétiens de tous les diocèses traversés par le Tour de France en cette année 2026, sont invités à se mobiliser et l'Église de France nous donne plein d'idées, plein de suggestions et beaucoup d'encouragement pour qu'on puisse voilà, profiter de cet événement sportif et fédérateur voilà, pour annoncer la bonne nouvelle, tout simplement. Parce qu'on est là pour ça, quand même.
Exactement. Ah. Début du Tour de France, le 4 juillet, vous savez d'où il part ?
Il part de Barcelone, non ?
Ouais, exactement. Voilà. Barcelone, départ inédit avec un contre-la-montre par équipe à Barcelone.
Mais je vous l'ai dit, moi je suis une grande sportive, je sais tout sur le Tour de France.
Justement, si vous êtes une grande sportive, peut-être que vous allez faire le Tour de France, vous savez combien de kilomètres sont prévus?
Alors, je ne vais pas le faire en pédalant, mais je vais le faire en partie pour Radio Présence, puisque Radio Présence va se mobiliser, bien sûr, quand le Tour de France va passer dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, notamment.
Je pensais que vous allez vous mobiliser en regardant la télé, mais
non. Oh non, mais Gilles, non. Quand même, enfin
3333 kilomètres quand même.
Ah oui, ben voilà. C'est plus facile de les suivre en regardant la télé, c'est vrai.
Ça va se passer du 4 au 26 juillet avec, vous l'avez dit, un passage très tôt hein, dans les Pyrénées, c'est,
oui,
au,
c'est
tout
au début.
Hein,
exactement, cinquième et sixième étape, mercredi 8 juillet, jeudi 9 juillet, donc avec d'abord le nord du département, et puis une arrivée le jeudi 9 juillet à Gavarnie-Gèdre, mais le Tour de France va aussi passer à Arreau, le col d'Aspin, le Tourmalet, Luz, enfin, que de beaux paysages. Parce qu'on n'a que ça dans le diocèse d'Arbey-Lourdes, de toute façon.
Mais écoutez, formidable, on espère qu'il fera beau en tout cas.
Mais oui, il fera beau, Gilles, enfin, quand même, un peu d'optimisme.
Bien, merci. Je vous laisse vous entraîner pour le Tour de France.
Oui,
déjà le matin, vous voyez, vous entraînez déjà.
Déjà, je suis arrivée en courant, j'ai failli être en retard.
Oui, non, mais j'étais à l'heure, tout va bien.
Voilà.
Bon appétit en tout cas.
Merci Gilles.
La suite de cette émission, c'est dans un instant avec l'actualité régionale. Merci Androse et bon appétit. Michael Field, à l'instant, dans un instant, nous irons dans le Gers pour parler de l'inauguration d'une plaque en hommage au juste gersois. Cette inauguration a eu lieu ce mercredi 27 mai au musée de la Résistance à Auch. On écoutera le reportage de Pauline Cazier juste après Sacha Boudet-Pouplier qui est avec nous à 12h30 pour le journal régional. Sacha Boudet-Pouplier est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Bonjour à tous, c'est une première dans le monde médical. Il vient d'être réalisé entre plusieurs hôpitaux européens dans le CHU de Toulouse. 8 patients ont participé à ce qu'on appelle un quadruplé de dons croisés de reins avec des donneurs vivants. Une opération inédite en France et en Suisse. Coordonné par l'Agence de la biomédecine, ce dispositif a permis à 4 paires de donneurs-receveurs incompatibles de bénéficier d'une greffe grâce à des compatibilités croisées entre plusieurs établissements, notamment Toulouse, Montpellier, Reims et Genève. Une organisation extrêmement complexe avec 8 interventions réalisées en moins de 24 heures, cette avancée pourrait permettre d'augmenter considérablement les possibilités de greffe rénale pour les patients atteints d'insuffisance rénale chronique. En Aveyron, l'autoroute A75 entre dans une nouvelle phase de travaux. Pendant 15 jours, la circulation sera perturbée entre Sévérac d'Aveyron et Campagnac avant de permettre des opérations de rénovation de chaussées. Des limitations de vitesse et des déviations seront mises en place sur cet axe très fréquenté reliant le nord et le sud du pays. Le succès est déjà au rendez-vous pour la voie verte récemment rénovée entre Saint-Girons et Saint-Lizier en Ariège. Plus de 6000 passages ont été enregistrés en seulement un mois sur cet itinéraire dédié aux cyclistes et aux promeneurs. Les collectivités locales voient dans cette fréquentation une confirmation de l'intérêt grandissant pour les mobilités douces et le tourisme vert dans la région. À Saint-Gaudens, l'hôpital mène actuellement une opération séduction auprès de 18 internes en médecine. L'établissement cherche à attirer de futurs praticiens pour renforcer ses équipes médicales dans un contexte de pénurie de médecins. Les internes découvrent les services, les équipements, mais aussi le cadre de vie du territoire afin de les inciter à s'installer durablement dans le Comminges. L'église de Saint-Pierre-Eslien de Mérins, sur la commune de Pont-du-Casse, vandalisée lundi de Pentecôte, provoque une vive émotion dans la commune du Pont-du-Casse dans le Lot-et-Garonne. Des dégradations importantes ont été constatées à l'intérieur du bâtiment religieux. Une enquête est en cours, tandis que certains habitants évoquent un profond malaise derrière cet acte. Et puis pour finir dans les Hautes-Pyrénées, le château fort de Lourdes participera cette année encore à l'opération Rendez-vous au jardin. Une journée gratuite d'animation, d'ateliers et de découvertes sera proposée au public autour des jardins et du patrimoine historique du site.
Et merci à Sacha Boudet-Pouplier, voilà, qui est étudiant, qui est avec nous, étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Voilà pour l'actu régionale. À 13h, c'est l'actualité nationale et internationale sur Radio Présence avec la rédaction française de Radio Vatican. Pour le moment, la suite de Présence Midi, direction le département du Gers.
Mercredi 27 mai dernier a eu lieu au musée de la Résistance à Auch l'inauguration d'une plaque en hommage au juste gersois. 6 habitants ont été reconnus parmi les nations. Derrière ces mots, il y a des mots, des gestes et des risques pris dans le silence des vies sauvées. Nous écoutons Jean-François Hurstel, délégué régional Midi-Pyrénées du comité français pour Yad Vashem. Il est au micro de Pauline Cazier.
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Jean-François Hurstel. Je suis un jeune retraité. Je suis l'un des délégués régionaux du comité français pour Yad Vashem. Alors, Yad Vashem, c'est l'organisme israélien qui s'occupe de la mémoire de la Shoah. Et nous, délégués, avons 3 missions. La première, c'est d'honorer le juste parmi les nations. Ça va d'instruire les dossiers, de préinstruire les dossiers de reconnaissance, mais aussi, comme aujourd'hui, d'honorer la mémoire et le sens de l'action des justes parmi les nations, qui sont des gens qui ont des non-juifs, qui ont sauvé des juifs au péril de leur vie sous l'occupation. Notre deuxième mission, c'est d'animer le réseau des villes et villages des justes en France. Et la troisième mission, qui est peut-être la plus importante, elle est dans la pédagogie, elle est dans le rapport aux enseignants, et en particulier, nous proposons aux enseignants qui le souhaitent des stages à Jérusalem, bien sûr, lorsque le calme sera revenu là-bas, des stages d'une semaine avec une participation symbolique et où ils sont pris en charge pendant une semaine avec un enseignement universitaire pour leur permettre de pouvoir ensuite faire des actions auprès de leurs élèves.
Aujourd'hui, ce matin, on est dans le musée de la Résistance avec un hommage au juste du département. Combien y en a-t-il eu ?
Alors, Auch compte 6 justes parmi les nations, dont on va rappeler les noms et les actions. C'était des policiers, un employé, une fonctionnaire, un comptable à l'EDF, une secrétaire de l'hôpital, une dame et son mari, un couple d'Occitans, on pourrait dire moyen, des gens normaux, simples, qui ont fait ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire sauver des vies de façon désintéressée.
Après tant d'années, pour vous, c'est extrêmement important ce geste aujourd'hui.
De même que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, la reconnaissance envers les justes qui se sont opposés par leurs actions à ces crimes n'a pas de prescription et est illimitée.
Est-ce qu'il y aura d'autres manifestations dans les prochains mois, peut-être hors du Gers ?
Alors, deux choses, deux messages. Le premier, c'est que la cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans une démarche initiée par la présidente de région, Mme Carole Delga, pour laquelle il y a une convention avec notre comité qui vise à honorer les justes de l'Occitanie. Il y en a plusieurs dans le Gers. Et puis, il y a des remises de médailles des justes dans un mois. Le 28 juin, nous nous reverrons à Montaigu-Arros, où nous honorerons la mémoire d'une juste, Eva Roger, qui a sauvé toute une famille. L'an dernier, nous étions à Saint-Matan, où nous honorions la mémoire d'un gendarme qui avait sauvé pas mal de monde. Et ainsi de suite, hein, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cérémonies à venir, bien sûr.
Voilà, à l'instant, vous avez entendu l'interview de Jean-François Hurstel, délégué régional Midi-Pyrénées du comité français pour Yad Vashem. Et je vous donne les 6 noms, les 6 justes qui sont sur cette plaque qui a été inaugurée mercredi 27 mai dernier. Maurice Couéron, Denise Ruot-Hachon, Abel Saramiac, Simone Siboni-Fiol, Robert Thiénot et Odette Thiénot, La Porte. Un grand merci à Pauline Cazier pour ce reportage.
Présence.
Présence Midi, le rendez-vous pour rester informé sur l'actualité de votre région. Retrouvez toute l'équipe de Présence Midi chaque jour du lundi au vendredi de 12h à 13h. Journalistes et chroniqueurs vous embarquent pour une heure d'information au plus près de chez vous. Présence Midi, à écouter en direct de 12h à 13h et partout en Occitanie.
Et vous êtes en plein cœur de Présence Midi. Merci d'avoir choisi Radio Présence. Dans un instant, on va parler de l'habitat dans les Pyrénées, de l'habitat autrefois dans les Pyrénées. En 1887, par exemple, on a demandé aux instituteurs dans les villages de recueillir des témoignages. Et ce sont plus de 4000 pages de documentation qui sont aux archives du département des Hautes-Pyrénées. Et un livre a même été publié en 1998, un livre publié par Jean-Pierre Beauvais. On va en parler dans un instant avec Anne Lasserre. C'est dans le regard des écrivains sur les Pyrénées.
Jouer.
Présence dans la vallée de la Rance, 93.1.
Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Philippe.
J'espère que vous allez bien.
Très bien, je vous remercie.
Alors Anne, j'ai laissé les réglages de la machine à remonter le temps presque au même endroit, puisque aujourd'hui vous nous amenez dans les Hautes-Pyrénées à la fin du 19e siècle. Nous étions déjà à la fin du 19e siècle, la semaine dernière, dans la Gorge de Luce. Hein.
Exactement, Philippe, vous avez bonne mémoire.
Et donc aujourd'hui, donc, nous partons pour la fin du 19e siècle, je le disais, grâce à un ouvrage collectif auquel... Ah, vous avez participé, Anne.
Eh oui, Philippe, effectivement, je me suis intéressée, moi, à la façon dont on parle des Pyrénées dans les relations de voyage et les romans.
Mais vous avez choisi d'évoquer la vie rurale, la façon dont on vivait dans les Hautes-Pyrénées autrefois.
Et c'est pour cela que nous parlerons aujourd'hui de l'habitat et des repas que l'on prenait dans ces maisons.
Alors, nous avons pas mal d'indications sur la fin du 19e siècle grâce aux instituteurs qui... À l'inspecteur d'académie de Tarbes avait demandé en 1887 de rédiger des renseignements précis sur la commune où ils enseignaient.
Oui, oui, oui. Et notamment leur demande de décrire les traditions, les coutumes, l'habitat, l'alimentation aussi.
C'était pas stupide comme idée. Et non, de demander aux instituteurs, qui étaient la personne la plus instruite souvent, hein, avec monsieur le curé, de faire ce travail de synthèse.
Voilà, ce sont donc de précieux témoignages, notamment pour les historiens.
Alors, les archives départementales des Hautes-Pyrénées conservent ainsi plus de 4000 pages de documentation. Écoutez, Anne, on va partir donc à la fin du 19e siècle dans un village rural des Hautes-Pyrénées.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Dans un ouvrage collectif intitulé Hautes-Pyrénées, publié par les éditions Bonneton en 1998, un chapitre est consacré à l'habitat dans les Hautes-Pyrénées à la fin du 19e siècle. Jean-Pierre Bove présente les maisons dans leur diversité. Il écrit. Un cinquième des maisons ont un étage. Les autres sont en rez-de-chaussée. Des murs de 3 mètres de haut closent de grandes cours avec leur vaste garage. On voit au sein de beaux portails en fer et en bois. À Lannemezan, les maisons sont éloignées les unes des autres. Chaque maison a, attenant au domaine habité, sa basse-cour, son verger et bien souvent des prés et des champs. Les propriétés, entourées de haies vives, ordinairement de peu d'étendue, portent le nom significatif de closerie. La maison d'habitation comporte une vaste cuisine qui sert le plus souvent de chambre à coucher et à manger. Elle est aérée par une porte et une ou deux fenêtres pratiquées le plus souvent du côté du midi. Le sol, piétiné et durci, sert de plancher. Les matériaux de construction proposent une gamme très diversifiée. Certains instituteurs font allusion à une homogénéité. Les couvertures sont en chaume ou ardoise à Sarlabousse, près de Lannemezan, ou à Esther, près de Luce. En tuile canale à main ou au bois-là. Le pisé est sollicité à main, alors qu'à Castéralou ou à Nistos, la roche constitue la seule composante des murs. À Borde, près de Tournaille, 173 maisons, toutes couvertes en tuiles, avec des murailles blanches et des volets verts. À Arodets, près de Lourdes, les vieilles baraques, qui étaient d'un bois grossier, couvertes de chaume, les portes basses et étroites, les fenêtres petites et presque sans jour, et par conséquent malsaines, sont remplacées par de jolies maisons mieux conditionnées, couvertes d'ardoises, bien crépies et blanchies, vastes et bien aérées. L'espace de la maison varie également d'un village à l'autre. Dans les villages à habitat concentré, la cour, les instituteurs emploient souvent le terme de basse-cour, est soigneusement close et équipée d'un portail qui marque le rang de la maison. Ailleurs, les bâtiments sont dispersés et l'espace est mal délimité ou simplement marqué par une haie. De nombreux instituteurs ne manquent pas d'évoquer, évoluant dans cet espace, le chien de garde. Les granges sont attenantes. Elles comprennent les étables, les écuries avec grenier à fourrage. Dans un coin des cours se trouvent les loges à porcs, avec poulailler au-dessus et le dépôt de fumier de ferme. Pour entrer dans n'importe laquelle de ces maisons, il faut traverser une couche de fumier s'étendant sur toute la surface de la cour. Dans les régions où il est difficile de s'approvisionner en eau, dans les coteaux notamment, chaque maison est dotée d'un puits pour la boisson des habitants et d'un vivier pour les animaux. Ainsi, à Campistrous, près de Lannemezan, les puits installés dans chaque maison atteignent 20 à 30 mètres de profondeur. Tirer l'eau est un travail assez long et pénible. Des viviers recueillent l'eau de pluie. Dans tout le département, les instituteurs signalent la présence d'un jardin et souvent d'un verger. Le jardin peut être entouré de murs ou clos de haies vives et d'aubépines taillées chaque année. La maîtresse de maison travaille le jardin, considérant comme une honte personnelle qu'il fût mal tenu. Qu'un étranger vienne lui rendre visite, elle ne manquera pas d'aller lui faire voir ses choux et ses oignons. En montagne, où les eaux abondent, la maison peut disposer d'un moulin. On fait grand usage pour l'alimentation du maïs, dont la farine, grillée le matin, non grillée le soir, est convertie en pâte. On ne mêle cependant presque plus cette farine à celle du froment pour faire le pain, comme cela se pratiquait autrefois. Le cochon, engraissé par la ménagère et salé, est à peu près la seule viande en usage. La base de l'alimentation est le pain, que l'on fait en général avec de la farine de métail. Le paysan fait lui-même son pain par fournée. Les bouillies de maïs et des millas sont loin d'être aussi goûtées que les bouillies de sarrasin. La consommation de cette céréale est considérable. Les fruits sont abondants, mais en général de mauvaise qualité. La pomme de terre rend de vrais services aux familles nombreuses ou dépourvues de ressources. Les pommes de terre sont abondantes. Elles fournissent une nourriture excellente pour l'homme et les animaux. La pomme de terre est un pain tout fait, disent nos paysans. C'est le pain de la Providence. La pâte de sarrasin, à laquelle on ajoute du bon beurre frais, est mangée avec du lait. On fait aussi avec le sarrasin des crêpes excellentes. Tout cela constitue ordinairement le repas du soir. Pour le repas du matin, on a la soupe, faite avec la viande salée de porc ou de la brebis, puis un grand plat de légumes, pommes de terre, haricots, choux, lentilles, pois. Au goûter ou repas de 1h après-midi, on mange du pain, du fromage, du beurre ou une omelette. Autre temps, autre mode de vie. Il est toujours fascinant de découvrir comment on vivait autrefois, même si le temps évoqué n'appartient pas à un passé lointain. Le passage retenu a été écrit par Jean-Pierre Bove. Il est extrait d'un ouvrage collectif intitulé « Hautes-Pyrénées », ouvrage édité par les éditions Bonneton en 1998.
Alors voici un aperçu de la façon dont on vivait dans les Hautes-Pyrénées à la fin du 19e siècle. Les étables, les écuries, les porcheries sont souvent attenantes à la maison.
Et le tas de fumier est souvent proche puisqu'il est dans la cour de la maison.
En ce qui concerne l'alimentation, le pain, le lait, les bouillies ont une grande importance. La nourriture est peu variée.
Et oui, c'est ce qui frappe les voyageurs de l'époque quand ils viennent dans ces montagnes. Ils remarquent que l'on dîne souvent de pain et de lait. Ouais. Les Pyrénéens sont souvent très pauvres dans la montagne.
Et la soupe des bergers peut être frugale. Un morceau de pain noir sur lequel ils versent de l'eau, dans laquelle a bouilli un petit morceau de lard.
Oui. C'est ce que décrit Eugène Viollet-le-Duc quand il partage le repas d'un berger dans les années 1833, je crois.
Alors peut-être que les anciens qui nous écoutent c'était peut-être pas aussi rigoureux, mais je pense quand même que ça s'est amélioré qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Hein,
parce oui.
C'était avant, c'était... dans les villages un petit peu reculés, c'était encore dur.
Oui, oui, et la nourriture restait très peu variée.
Hein. Oui, oui. Alors Anne, la semaine prochaine, nous traverserons les Pyrénées grâce à Romain da Fonseca.
Romain Fonseca.
En 2018, il part d'Hendaï avec 8 chiens de traîneau pour renier Banyuls.
Oui.
Voilà. Ben écoutez, on va se préparer pour ce périple, qui devait être un joli périple.
Oui, quand même, hein. Belle traversée des Pyrénées. C'est un très beau livre d'ailleurs, Philippe, très, grandement illustré par de nombreuses photos. Ah. Et on voit bien les chiens de traîneau.
À la semaine prochaine, Anne.
À la semaine prochaine, Philippe.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi. Et la brique rouge des minimes, oh mon pays, oh Toulouse, oh Toulouse. Je reprends l'avenue vers l'école, cartable et bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici même, les mémés aiment la castagne. Oh mon pays, oh Toulouse, un torrent de cailloux le dont un accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air. Et pourtant, l'église Saint-Cernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré touche et noir. C'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé aux mains cité gasconne, ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui un peu sa corne, ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leur ventouse. J'entends encore l'écho de la voix de papa. C'était en ce temps-là mon seul chanteur de blues. Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac, tes avions ronflent gros. Silence.
sur cette ville. Pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles, ô mon pays, ô Toulouse, ô
Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le pape exhorte de nouveau à l'annonce de l'évangile dans un monde parfois indifférent. Léon XIV recevait ce matin